Europe 1,
9h-11h,
Wendy Bouchard.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Merci de nous rejoindre pour faire le tour de la question sur Europe 1. Bonjour Julie.
Bonjour Wendy.
Avec comme chaque jour vos témoignages au service de l'actualité, et on entendait hier dans la matinale la honte et l'écœurement d'un ancien salarié de l'entreprise Spanghero. Honte d'être associé au scandale de la viande de cheval retrouvée dans les lasagnes après les fraudes d'autres salariés qui ont fait passer cette viande pour du 100% bœuf. 7 ans après, à quoi peut mener le procès qui s'est ouvert à Paris? Qu'est-ce qui a déjà changé d'une certaine manière pour le consommateur, pour les filières d'abattage, dont nous allons parler largement jusqu'à 10h. Perico Legas est avec nous, Christophe Marie de la Fondation Bardot également, et l'association Foodwatch sera représentée ici. On en débat avec vous ce matin, vous consommateurs qui doutez aujourd'hui de ce que vous mangez, hélas. Et puis à 10h, on fête les 60 ans d'Astérix, la BD française la plus lue dans le monde. Comment expliquer la permanence de ce succès et qu'ont de très français ces fameux Gaulois? Qu'y a-t-il finalement d'Astérix en nous? On en parle à l'avant-veille du festival d'Angoulême et on vous attend. Les standards, le standard est ouvert, vos témoignages à l'avenir, Julie.
On rappelle le standard d'Europe 1, le 3921, et si vous utilisez les réseaux sociaux, c'est le hashtag Europe 1.
9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Et quelle viande dans notre assiette? Bonjour Perico Legas.
Bonjour.
Vous qui êtes chroniqueur gastronomique, rédacteur en chef à Marianne, co-auteur du panier à l'assiette avec Serge Papin. Christophe Marie, porte-parole de la Fondation Bardot. Merci d'être avec nous, Christophe.
Bonjour.
Nous sommes 7 ans après le scandale des plats préparés à la viande de cheval. On va s'interroger sur le symbole et l'intérêt de ce procès. Qu'est-ce qui a changé, en tout cas depuis ce scandale, pour nous et pour les filières d'abattage? Perico, vous vous souvenez, j'imagine, de la déflagration que cette histoire a provoquée en France. Une usine de 350 employés montrée du doigt, le dégoût des consommateurs que nous sommes, les ventes de viande qui s'en ressentent, d'ailleurs à l'époque. On s'est demandé tous, pardon du terme, mais pourquoi ce trafic dégueulasse?
Alors, ce n'était pas le principe de la viande qui était en cause. C'est le système économique européen qui permettait à une grande firme, qui était Findus, qui a été victime totalement, on a incriminé Findus, d'ailleurs ce sont eux-mêmes qui se sont rendus compte du trafic, était victime d'un système économique qui fait qu'on pouvait mettre dans des lasagnes européennes de la viande qui était partie comme étant du bœuf depuis les abattoirs roumains à partir de produits qui étaient trafiqués. En fait, on a appris que c'était du cheval, c'est tout. Ce qui n'était pas normal, c'est que l'Union européenne, qui nous a garanti tant de certitudes, de normes, on découvrait qu'on était dans un système quasiment médiéval, où du cheval qui venait probablement d'Ukraine était, à travers des abattoirs roumains, des traders chypriotes et hollandais, qui sont d'ailleurs aujourd'hui devant la justice, eh ben on pouvait transformer par un jeu d'étiquette dans une société française à Castelnaudary, ouais, de la viande de cheval de provenance douteuse devenait du bœuf, du bon bœuf européen dans des lasagnes. Voilà. C'est ça le vrai drame. Alors ensuite, derrière, il y a tout évidemment le système de minerai. On a appris que la viande était du minerai. Et quand on sait ce que c'est du minerai de viande, c'est ignoble. Ce sont des restes, c'est même pas la viande fraîche, c'est une fois qu'on a abattu la viande, la bête, les restes de la viande dans l'abattoir qui normalement devraient aller à la poubelle, eh bien comme le système ne perd rien, eh bien on transforme ça en minerai, c'est-à-dire des énormes boudins, vous voyez, des énormes saucissons de viande
congelés. On trouve dans un certain nombre de plats préparés.
Et ça rentre dans les plats industriels. Donc était en cause la grande distribution qui, à force d'avoir effondré les prix, a contraint les producteurs à acheter de la viande dégueulasse au prix le plus bas. Mm-hmm. L'agro-industrie qui a été obligée de se fournir avec des produits de ce type. Et puis la filière satanique qui va de l'abattoir roumain jusqu'à Castelnaudary, où de fil en aiguille, d'étape en étape, eh bien, on modifie les étiquettes et puis on ment aux consommateurs. C'est surtout ça que ça a mis en valeur. Mais ce que je vais vous dire, Wendy, et je remonte aussi à la viande, l'ESB, vous savez, quand il y a eu la vache folle, c'est grâce à ces gros accidents industriels, c'est grâce à ces tricheries du système que les pouvoirs publics peuvent mettre en place des réglementations qui garantissent la sécurité du consommateur.
Et la fameuse traçabilité depuis 2002,
qui
au moins.
Qui est essentielle. Alors, le débat de la viande est encore un autre débat, oui, mais en tout cas, ce scandale a permis, une fois de plus, d'éclaircir la traçabilité, la provenance, la clairvoyance, et surtout l'éveil du consommateur, qui maintenant, très vigilant, très exigeant sur ce qui met, plus qu'il ne l'a été en tout cas, sur ce qu'il met dans son assiette.
On va y venir, mais Christophe Marie, pour la Fondation Bardot, vous vous enquêtiez depuis des années sur les filières clandestines de cheval, notamment. Ça ne vous a pas étonné, finalement?
Non, pas du tout, parce qu'il n'y a pas que des victimes dans cette affaire. Il y a aussi des gens qui, volontairement, ont acheté effectivement cette viande de cheval qui valait rien, parce qu'il y a eu aussi, au niveau de la Roumanie, beaucoup de chevaux qui ont été envoyés à l'abattoir, parce qu'il y a une interdiction maintenant de se promener sur les routes avec des chevaux et charrettes, etc. Donc, il y a la viande de cheval, effectivement, ne vaut plus grand-chose. Et du coup, il y a un intérêt économique pour certaines filières de les introduire à la place du bœuf. Mais ce qu'on veut dénoncer, c'est que, effectivement, ça a mis la lumière sur un problème d'étiquetage qui demeure. Hein. Il y a toujours aussi un gros problème d'étiquetage et de contrôle. On le voit en ce qui concerne les contrôles en abattoir, ils sont extrêmement insuffisants. Mais là, dans les filières de ce type, c'est encore plus compliqué parce qu'il n'y a pas d'obligation d'avoir un inspecteur vétérinaire, par exemple, comme c'est le cas dans un abattoir. Là, dans tout ce qui est usine de transformation, eh bien, c'est une entreprise, une usine, quoi. Donc, c'est très difficile de faire des contrôles à ce niveau-là et de pouvoir assurer la traçabilité des consommateurs.
Oui, ça marche à la confiance.
Pour l'instant, l'Union européenne interdit la traçabilité sur ce qu'on appelle les produits transformés, les plats cuisinés, le contenu ne doit pas être indiqué. Stéphane Hoffol a obtenu qu'il y ait une dérogation pour la France,
oui,
qui expérimente la... On a une traçabilité sur les produits frais. Le poisson et la viande, vous savez, il y a provenance de l'endroit de pêche et sur un morceau de viande fraîche en France, vous avez l'affiche chez le boucher.
Absolument.
Le nom de la vache, l'endroit, voilà. Sur les produits transformés, les plats cuisinés, l'Union européenne, les lobbies industriels, ne veulent pas que l'on puisse indiquer l'origine de la viande. Imaginez qu'on est sur un paquet de viande, de lasagne ou autre, provenance Bulgarie ou Hongrie, où il y aurait une méfiance du consommateur en disant « oui, aïe, d'où ça vient ?» et donc il n'achèterait pas.
Donc là, pour l'instant, rien n'a changé sur le sujet.
Pour l'instant, l'Union européenne refuse la traçabilité sur les plats transformés.
Ah oui, vous disiez, la viande n'est pas le problème, vous avez bien expliqué les choses, Perico Légas. J'allais dire aussi que la viande de cheval, hélas, n'est pas le problème, car la France, là je m'engage un peu, mais consomme encore de la viande de cheval. C'est autorisé, hein,
ah oui, oui, bien sûr, c'est autorisé,
voilà.
Mais effectivement, c'est quand même une consommation qui est en baisse constante. Oui. Et là, d'ailleurs, c'est intéressant, parce que le scandale que ça a fait pour une viande autorisée, ça montre quand même que le cheval est un animal particulier pour le consommateur, oui, et qu'il y a une volonté, soit d'en acheter ou soit de refuser d'en consommer. Donc là, il y avait une tromperie volontaire, mais la tromperie, elle demeure sur l'étiquetage. Justement, en 2013, au moment de ce scandale, il y a eu un rapport d'information du Sénat qui a été mené par Sylvie Goy-Chavent notamment, et qui a démontré aussi la problématique de la traçabilité pour les viandes issues de l'abattage rituel, puisqu'il faut savoir qu'en France, une grande partie de ces viandes issues donc d'un abattage pour couvrir les filières halal et kasher se retrouve dans le circuit classique sans aucune indication. Et là, il y a une véritable volonté de ne pas marquer justement cette viande issue de ce type d'abattage. Et donc, je vous rappelle, des animaux qui sont égorgés à vif, sans étourdissement.
Oui. Mais là, on est dans des considérations économiques, une fois de plus.
Eh ben, exactement, parce que justement, dans ce rapport, l'Interbev, qui est l'interprofession des viandes, indiquait que ça rapporte à peu près 210 millions d'euros ces viandes issues de ces systèmes d'abattage rituel déclassés.
Oui.
Et ça, c'est très grave, parce que là encore, le consommateur qui en droit de savoir ce qu'il consomme, enfin celui qui a choisi de consommer de la viande, eh bien est trompé volontairement, puisqu'il y a eu véritablement, alors au niveau européen c'est vrai, pas de réglementation sur l'étiquetage pour ces viandes, mais aussi de la part de la France, hein, un frein terrible, ouais, pour
les trois abattoirs d'Île-de-France sont intégralement halal, non pas pour des raisons confessionnelles, mais pour des raisons de gestion.
Voilà.
S'il fallait qu'il y ait deux filières, ça coûterait plus cher. Or, les abattoirs sont soumis, eux aussi, par la grande distribution et l'industrie, à des prix de revient minimum. Donc, les trois abattoirs d'Île-de-France, c'est pas pour ça que 100% de la viande consommée en Île-de-France, ces trois abattoirs fournissent 12% de la viande.
Oui,
voilà. Alors, normalement, ça doit être indiqué abattage rituel, et quelquefois, c'est indiqué, mais pas toujours, et de moins en moins. Donc, effectivement, il y a aujourd'hui des consommateurs français qui consomment de la viande abattue rituellement, confessionnellement, sans le savoir. À une époque de clairvoyance et de traçabilité, c'est pas tout à fait normal.
Non, en effet, la transparence est loin d'être globale, et on reparle de tout cela, de cette filière, de ces trafics, 7 ans après le scandale de la viande de cheval dans cette usine Spanghero, usine de préparation, de transformation de produits. C'est le temps de la justice en France, mais heureusement la mobilisation citoyenne a pris les devants. On va voir ce qui a pu changer ces dernières années. On fait le tour de la question et je recevrai dans un instant Ingrid Krog, qui est directrice de l'information de Foodwatch. À tout de suite avec vous, messieurs, et vos appels au standard. 39-21.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
En marge du procès Spanghero qui se déroule en ce moment, nous nous demandons quelle viande nous trouvons dans nos assiettes. Wendy Bouchard.
Oui, Spanghero, un nom qui a fait le tour du monde pour cette affaire. Ça a été terrible parce que Spanghero avait vendu cette usine, Perico-Légas.
Oui, Spanghero a beaucoup souffert de cette... Son nom était associé, puisqu'il a vendu le nom de la marque. C'est la société, c'est l'Urbéry, qui est la grande coopérative de maïs du Sud-Ouest, présidée par M. Barthélémy Aguerre, qui était incriminé.
Oui.
Spanghero n'irait pour rien. Au contraire, il a racheté, quand cette société a été en difficulté, il a racheté la société pour sauver les emplois et redresser l'image de la marque. Donc Spanghero, c'est un nom, mais ce ne sont pas les coupables de cette forfaiture.
En tout cas, on revient avec vous, Perico Légas, c'est Christophe Marie de la Fondation Bardot, sur les problèmes des conditions d'élevage, de traçabilité, de fabrication, de transformation, de conservation, de distribution de la filière face à des consommateurs aujourd'hui qui doutent. Et nous sommes avec Ingrid Kragl, directrice de l'information de Foodwatch, organisation non gouvernementale de défense des consommateurs. Bonjour madame.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous vous êtes mobilisée à l'époque en 2013 ?
Alors à l'époque en 2013, le bureau de Foodwatch France était en création. Donc officiellement, on n'existait pas encore. L'ONG a été créée en 2002 après le scandale de la vache folle,
oui.
À Berlin d'abord, et puis à Amsterdam en 2009. Et j'ai ouvert le bureau en juillet 2013 officiellement. Mais ça faisait des mois que je surveillais le problème et que je collaborais avec Foodwatch. Donc on a été très frappés par des similitudes quand même avec le scandale de la vache folle, puisqu'on s'est rendu compte que il s'agissait d'un scandale quand même qui touchait toute l'Europe, qui a choqué, qui a provoqué une onde de choc, qui a remis en question, comme M. Légas le disait, les réglementations. Et ça, c'était plutôt un signal important.
Oui, le genre de scandale qui laisse des traces. D'ailleurs, je vais vous demander, Christophe Marie, ce que vous attendez, vous, de ce procès qui a débuté hier ?
Bah justement, la lumière sur les problèmes d'étiquetage, de visibilité. Nous, on souhaite que le consommateur soit mieux informé, y compris sur les modes d'élevage, puisque vous savez qu'en France, il y a beaucoup d'élevage en batterie, essentiellement. Bon, moins pour les bovins, mais pour toutes les autres filières, c'est des cages, notamment les lapins, 99%. Les poules pondeuses, encore, qui restent aussi beaucoup. Les
alors,
porcs,
sur les
qui
poules,
sont
l'étiquetage,
voilà.
Transparence,
exactement.
Quand même,
c'est le seul, marche, c'est la seule filière où effectivement il y a une traçabilité imposée par l'Union européenne. Donc avec l'histoire des codes, donc 3 pour la cage, ensuite plein air pour le 1 et 0 pour le bio plein air. Donc là effectivement, typiquement, on aimerait que ce système d'étiquetage soit généralisé pour les autres filières, telle manière que le consommateur puisse choisir. Parce que là, il y a beaucoup d'étiquetages fantaisistes. On parle d'animaux élevés à la ferme ou des choses comme ça qui ne veulent rien dire au niveau réglementaire, donc on raconte n'importe quoi pour tromper le consommateur, et ça c'est grave. Donc là, véritablement, ce procès, il doit mettre la lumière aussi sur la volonté de certaines filières de tromper le consommateur. Il y a une véritable volonté de tromper le consommateur.
Ouais, clairement,
la vraie cause de tout ça, c'est quand même l'impact de l'effondrement des prix imposé par la grande distribution, qui veut toujours du moins cher.
Vous avez commis un livre sur le sujet.
Mais oui, sauf qu'à un moment donné, au-dessous d'un certain seuil de prix, on est obligé de produire de la malbouffe, utilisons le mot. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc l'alimentation, elle a un prix. Ce prix implique une protection de l'environnement, un respect de l'animal. Ensuite, on rentrera dans le débat de la souffrance, bien entendu que... On ne peut plus consommer de viande s'il y a souffrance. Mais la qualité du produit, la rétribution du producteur. Or, aujourd'hui, le système, la grande distribution, toujours moins chère, en plus grande quantité de surproduction, amène à cette catastrophe. Et on est en train d'assister tout simplement, ça a été vrai sur un problème bancaire, à la financiarisation de notre alimentation. C'est-à-dire, ce système économique fait en sorte que le fait de s'alimenter puisse engendrer des bénéfices et des profits pour l'agroalimentaire qui fait beaucoup de réformes aujourd'hui, beaucoup d'efforts, et la grande distribution qui, elle, peine beaucoup à en faire. Il faut éduquer le consommateur. La qualité alimentaire, elle a un prix. Donc réduisons la quantité de nos aliments pour pouvoir engendrer une économie qui nous permettra de manger un peu mieux. Mais tant que la grande distribution dictera « je veux du moins cher », elle contraindra toutes les filières, de la production à la transformation, à rechercher des produits bas de gamme, des produits bon marché, et surtout négliger l'environnement, la souffrance animale, la qualité alimentaire et la provenance.
Ça se ressent dans la réalité sanitaire.
C'est un point très important.
La baisse des inspections sur la sécurité sanitaire des aliments aussi.
Voilà, il y a cet aspect-là, mais effectivement, c'est un point qui est indispensable de souligner, c'est qu'il faut impérativement baisser sa consommation de viande. D'ailleurs, c'est déjà le cas, c'est en baisse, parce qu'il y a une surconsommation, d'ailleurs, qui est dénoncée aussi par l'Organisation mondiale de la santé, puisque je vous rappelle que la viande rouge est considérée comme potentiellement cancérogène, et les viandes transformées le sont d'office, avec un groupe qui... c'est au même niveau que fumer du tabac ou bien être exposé à l'amiante.
Oui,
donc c'est quand même pas n'importe quoi.
On peut rationaliser sa consommation de viande. Encore faut-il savoir ce qu'on mange.
Ça concerne la consommation à l'américaine, en quantité, en type de production, avec du tourteau de soja OGM. La maintien de cuisson des pays anglo-saxons, c'est à la flamme, c'est-à-dire on engendre des polycarbones très dangereux. En France, On pourrait y arriver. On est encore sur une consommation de 150 à 200 grammes par jour.
Et en ce baisse n'est de pas... 10%, c'est-à-dire.
Oui. Et puis la mode de cuisson et de production, on n'en est pas là. Mais il faut être très vigilant, on pourrait y arriver. Et effectivement, dans les produits transformés, tant qu'il n'y aura pas de traçabilité obligatoire, on pourra introduire dans ces aliments ce qu'on voudra. Donc, il y a une vigilance citoyenne de consommateurs à avoir, mais les statistiques mondiales sur la cancérogénéité de la viande ne sont pas totalement avérées pour ce qui est de la France. Si la viande est nourrie à l'herbe avec une vache, noblement élevé, bien abattu, avec une garantie sur la filière, on a moins de risques sanitaires que dans une viande totalement industrialisée, ce qu'on appelle les feedlots, qui sont ces élevages américains de 60, 75 000 bêtes nourries autour de soja OGM, je le disais. Ça, c'est l'industrialisation massive et barbare de la production de viande. Ça, il faut l'abolir.
Oui, on peut faire le distinguo quand même, comme le faire écho.
Moi, je ne le ferai pas parce que là, on est un peu comme le nuage de Tchernobyl qui n'atteint pas la France. Ouais. Alors, effectivement, on n'est pas dans les mêmes proportions.
On
n'est pas, pas dans les mêmes proportions, mais pour autant, comme je le disais tout à l'heure, la production en France, c'est quand même du bâtiment et de la cage pour l'essentiel. Donc, ça reste de la souffrance animale. Hein. Et c'est aussi pour ça que c'est intéressant, parce qu'à la limite, les gens qui ne s'intéressent pas à la souffrance animale peuvent le faire au moins pour leur santé, de ne pas manger de viande, et aussi pour l'environnement, puisque 63% de la destruction de la forêt équatoriale, amazonienne plutôt, est due justement à la production de soja pour alimenter les bovins notamment.
Et donc ça, c'est
un gros problème. Bah voilà, déjà qu'on évacue ça, et voilà. Donc il y a un problème global qui est lié à la consommation de viande, indépendamment de la souffrance animale, bien évidemment, qu'on dénonce.
Je voudrais donner la parole à Anthony dans un instant. Il habite une région où on produit beaucoup de viande et il veut nous en faire part. Il s'intéresse aux jeunes agriculteurs sur place en Bretagne, Anthony, et Ingrid Kragl, également de l'organisation de l'ONG Foodwatch, qui nous éclaire sur ce sujet. 7 ans après le procès de la viande de cheval Spanghero, est-ce que vous avez confiance en ce que vous mangez? On vous donnera le résultat de cette enquête, de cette question Facebook. C'est massif. Hein, à tout de suite avec vous, Julie.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Du procès Spanghero sur la viande de cheval retrouvée dans des lasagnes pur bœuf. On s'interroge 7 ans après. Avez-vous confiance dans ce que vous mangez? C'est notre question Facebook. Et vous avez répondu non, on n'a pas confiance à 83%. Quelques exemples de commentaires. Nous ne mangeons que ce que mon épouse cuisine avec des produits de producteurs locaux. Tranquille, nous écrit Christian. Manger français direct du producteur ou chez un boucher. Faire vivre nos agriculteurs français et consommer local. Ça, c'est le conseil de Franck. Non, je n'ai pas confiance, nous dit André. Mais avons-nous le choix? Tout le monde n'a pas les moyens d'acheter ailleurs que dans les grandes surfaces.
Et oui, et on parlait pendant la pause du désarroi aussi d'un certain nombre d'éleveurs. Moi, je peux avoir confiance en mon boucher, je peux avoir confiance dans la provenance de ma viande d'élevage, mais il y a un maillon faible pour moi, c'est la filière d'abattage. Idem pour les éleveurs, Perry Collegas qui...
Un éleveur qui s'est donné du mal... Au-delà du débat qu'on pourra avoir ensuite sur faut-il manger de la viande, puisqu'il faut abattre l'animal, il y a un sacrifice. Mais il y a des éleveurs qui vraiment soignent leurs animaux, font en sorte que les conditions d'élevage, que la nourriture, que l'environnement dans lequel il est, garantissent le maximum de qualité. Ouais. Et cet éleveur, cette éleveuse, savent que si l'abatteur est un voyou qui ne respecte pas les normes, eh bien tout le travail, tout l'effort qui a été engagé est ruiné en quelques minutes, puisqu'un animal stressé qui souffre, qui est abattu, engendre des toxines, c'est un phénomène très particulier, mais en tout cas la qualité de la viande s'en ressent. Donc, il faut savoir qu'un éleveur, son obsession, c'est d'être sûr que la bête qu'il va transmettre à l'abattoir sera abattue sans souffrance le plus rapidement possible et que la qualité de la viande ne pourra pas s'en sentir. Ça, aujourd'hui, c'est pas une garantie, puisque grâce à L214, on sait ce qui se passe. Je suppose pas dans tous les abattoirs, mais en tout cas dans trop d'abattoirs. Nous avons la solution politique qui est des caméras partout. C'est quand même curieux que ce gouvernement, que les pouvoirs publics aient du mal à placer des caméras. On en met partout sur la route pour savoir ce qui se passe.
Le pouvoir des lobbies
est
considérable, vous savez bien.
On sait ce qui se passe et ça résoudrait en tout cas une grande partie du problème, peut-être pas tout. Et là, il y aurait décidément, au niveau de la traçabilité de la souffrance animale, déjà, sans aller jusqu'à la suppression de la consommation de viande, qui est un débat que je respecte et auquel je participe, on aurait en tout cas la garantie que l'animal n'a pas été torturé, parce que les images barbares que l'on voit sont ignobles. Et D'ailleurs, c'est totalement contraire à notre éthique alimentaire.
Sauf qu'on a du mal à faire l'aggiornamento. On parlait de M. Bigard, qui détient la majorité
quasiment
des abattoirs
oui.
aujourd'hui, et qui refuse de mettre des
qui
caméras
refuse,
dans les abattoirs.
Et puis, il faut rappeler quand
et
même
il l'a dit, d'ailleurs, donc je veux dire toute transparence.
Il a été interrogé, effectivement, lors de la commission d'enquête parlementaire par Olivier Falorni, notamment.
Et
à l'Assemblée. Et en fait, ce qui était disait, et qui n'était pas inintéressant, c'est que si on montrait aux consommateurs de la manière dont les animaux sont tués, ils ne voudraient plus consommer de la viande. Donc, c'est quand même assez, c'est un aveu quand même assez troublant. Mais il faut rappeler aussi que Emmanuel Macron en avait fait un engagement de campagne, d'installer des caméras. Nous, quand on l'a rencontré avec Brigitte Bardot en juillet dernier, il n'en était plus question, uniquement sur les nouveaux établissements. Donc ça, on ne comprend pas effectivement qu'il y ait cette volonté de ne pas assurer cette traçabilité, parce qu'il y a eu un renforcement justement des sanctions pour les actes de maltraitance en abattoir. Mais s'il n'y a pas de moyen de contrôler, je ne vois pas comment la sanction va s'appliquer. Donc c'est vraiment, vraiment problématique, effectivement.
Oui, Ingrid Kregel, vous êtes encore avec nous pour l'ONG Foodwatch. Vous parlez de l'intérêt de ce procès, des réalités, de la réalité de zones d'ombre dans cette chaîne alimentaire qui reste très nombreuse. Vous faites aussi, vous, un travail d'enquête régulier pour informer le consommateur.
Oui, effectivement, je rejoins les intervenants sur les questions qui se posent, mais nous, on fait quand même une autre analyse. On a beaucoup parlé de l'éducation des consommateurs. Il faut quand même rappeler que si on est dans une situation comme ça, où les scandales alimentaires s'enchaînent, malgré des améliorations dans la réglementation européenne, c'est parce qu'on a un vrai souci de mise en œuvre de ces réglementations et d'application au niveau national. Et c'est le constat qu'on fait. C'est la leçon qu'il faut tirer de toute cette histoire de viande de cheval. Parce que finalement, là, qu'est-ce qu'on a ? On a 4 mis en accusation, 2 anciens dirigeants de Spanghero et 2 traders néerlandais qui ont favorisé ce trafic à une échelle assez incroyable. Mais même si ces 4 mis en accusation écopent des peines les plus lourdes, qui heureusement ont été renforcées avec la loi Hamon en 2014, eh bien, ça ne protégera pas du tout le consommateur de nouveaux scandales alimentaires. On l'a vu avec les œufs contaminés au fipronil, substance interdite qui a pourtant été aspergée sur des volailles. On l'a vu avec le scandale Lactalis. On a vu l'été dernier le scandale qui est passé un petit peu sous les radars, mais qui a quand même fait 9 morts en Europe, de la listeria dans les légumes surgelés. À l'automne dernier, Le Monde a révélé que l'Europe avait été envahie par 9000 tonnes d'OGM interdits qui sont entrés quand même dans l'alimentation animale. Bref, les scandales se succèdent et on est face à
des problèmes. Il faut une volonté politique, évidemment, derrière.
Assez récurrent, en fait. C'est pas la faute des consommateurs qui veulent acheter de l'alimentation bon marché, tous ces problèmes-là. C'est une autre analyse que nous faisons et c'est pour ça qu'on pousse, nous, pour que ce procès aussi mette en lumière les faiblesses du système et qu'on se pose les bonnes questions. On a identifié 3 gros problèmes. Le premier, c'est la traçabilité. Même si elle est prévue et que c'est une obligation dans la réglementation et qu'on a quand même un peu plus d'informations qu'autrefois, c'est vrai, eh bien, elle n'est pas mise en œuvre. On a vu comment les autorités galèrent à identifier les produits contaminés, dangereux, interdit, etc. On l'a vu avec le fipronil, avec les OGM, nous on interpelle les autorités et on voit qu'ils peinent à identifier les élevages concernés. Avec Lactalis, combien de listes a-t-il fallu avant d'avoir la liste complète? Bref, donc ça c'est un souci, la traçabilité. Le deuxième, c'est l'opacité.
Oui, et le troisième, on va aller au
fait. Et le troisième, c'est les manques criants de moyens, il faut quand même le rappeler. Comment peut-on être sûr qu'on est protégé dès lors qu'on voit qu'entre 2012 et 2015, il y a moins 37% de contrôles qui ont été faits au niveau de l'inspection sur la sécurité alimentaire en France.
Je vous remercie, et la DGCCRF. On va revenir sur tous vos chiffres juste après une petite pause. Je vais faire réagir Perico Légas et Christophe Marie sur vos propos à l'instant pour l'ONG Foodwatch. Et je donne la parole à Anthony qui veut réagir aussi sur ce qu'il consomme, ce que nous consommons aujourd'hui en une moitié de transparence. À tout de suite.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Jusqu'à 10h, nous parlons des problèmes liés aux conditions d'élevage, de la traçabilité à la distribution de nos viandes. Et on rappelle que la fraude n'est pas anecdotique, elle ne concerne pas que les plats préparés. Spanghero, c'est 750 tonnes de viande de cheval ainsi écoulées dans 13 pays européens, soit 4,5 millions de plats cuisinés.
Voilà, c'était ça le scandale de l'époque, incroyable. Hein. 13 pays européens, vous en comprenez l'ampleur et la ramification incroyable. Perico Légas est avec nous, rédacteur en chef à Marianne, chroniqueur gastronomie, co-auteur avec Serge Papin du panier à l'assiette, alimentation, grande distribution, agriculture, pour en finir avec la malbouffe, eh bien on y est. Christophe Marie, porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot, également avec nous. Revenons sur les propos de la directrice de l'information de Foodwatch, il y a un instant, qui nous parlait de 3 grandes dimensions, traçabilité, opacité, contrôle, voilà ce qui devrait ressortir aujourd'hui de ce procès.
Eh bien, nous touchons au poids des lobbies. Ouais. À Bruxelles, vous avez des pâtés de maison entiers où les lobbies sont là officiellement organisés, qui remettent aux parlementaires, et ça existe aussi en France, je l'ai vu, des textes de loi tout prêts, sous vide, prêts à cuisiner. Et on vote le texte tel qu'il a été proposé par les lobbies. Avant, on prenait la peine de recopier. Là, c'est du copier-coller grâce à l'informatique, et on passe des textes de loi pour protéger le système économique tel qu'il est là et qui pourrit notre alimentation. Donc le poids des lobbies, c'est quoi? C'est de demander, surtout par rapport à cette opacité, de réduire les contrôles des pouvoirs publics. Et effectivement, le gouvernement Fillon, entre 2007 et 2012, a démantelé ce qu'on appelle la répression des fraudes, la DGCCRF, Direction Générale de le Contrôle de la Répression des Fraudes, qui était là au niveau national, qui s'assurait, ce que j'appelle la police de la croûte en un jeu de mots qui est drôle, qui s'assurait de la garantie de la sécurité des consommateurs. Eh bien, les lobbies industriels, les lobbies financiers, gênés par l'intrusion des pouvoirs publics, c'est une police en fait, a demandé un allègement. Et on a démantelé, c'est-à-dire qu'on l'a mise au niveau départemental, ça ne dépend plus que des préfets, ça s'appelle maintenant Direction Départementale de la Protection des Populations, vous voyez la belle formule, et ces fonctionnaires vous disent, nous n'avons plus les moyens, ni politiques, ni même matériel, puisque les effectifs sont réduits, pour contrôler. Donc, quand le tricheur ou le tricheur potentiel sait qu'il n'y aura pas de gendarmes, qu'il n'y aura pas de radar, qu'il n'y aura pas de contrôle, eh bien, il est tenté de frauder et il ne s'en prive pas, je peux vous le garantir.
Et Patricia nous écrit, justement, il y a des lobbying autour de l'abattage rituel. Une députée européenne me l'a avoué, je travaille dans une radio locale en 2011 et j'avais été invitée à la Commission européenne au sujet de la traçabilité alimentaire. Lobbying sur l'abattage rituel, vous connaissez bien le sujet à la Fondation Bardot aussi.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, on fait une conférence dans deux jours, là, sur Paris, pour justement démontrer toutes les preuves scientifiques sur la souffrance accrue des bêtes égorgées en toute conscience, même si ça paraît une évidence, par certains continuent à le nier. Donc effectivement, il y a une véritable, un véritable lobby, mais bizarrement en fait...
Vous voulez que les cultes fassent aussi...
Justement, le frein ne vient pas forcément du culte. Nous, on a rencontré avec Brigitte Bardot Dalil Boubaker, notamment, à la mosquée de Paris il y a quelques années. Il nous a écrit, il nous l'a dit à l'époque, mais il nous l'a écrit depuis encore, qu'il n'y a pas d'opposition à recourir à un étourdissement dès lors qu'il est réversible, c'est-à-dire qu'il ne tue pas l'animal. Et en l'occurrence, les freins les plus durs qu'on a pu rencontrer, c'est finalement les filières économiques, que ce soit des abattoirs ou même des éleveurs. Ouais. Parce qu'on avait eu une discussion au ministère de l'Agriculture il y a quelques années avec les représentants aussi du culte, donc le ministère de l'Intérieur, et les seuls qui... Alors qu'on était justement... Et on parlait de traçabilité de ces viandes issues de ce type d'abattage. Alors qu'on était justement sur une espèce de consensus, eh bien, le représentant des viandes s'y opposait fermement parce que justement, il ne voulait pas perdre tout un secteur économique, alors qu'il y a plein de pays de l'Union européenne qui imposent l'étourdissement et qui n'est pas justement contraire aux règles du culte.
Oui, très intéressant. La filière économique et pas forcément le frein cultuel. Anthony est avec nous de Guimilio. Merci de votre patience. Bonjour Anthony.
Oui, bonjour Wendy, bonjour Julie, bonjour à tous.
Eh bien,
bonjour.
Merci de nous appeler de Bretagne. Je vous fais peut-être réagir à ce que nous écrivait Franck. Et un instant, faites vivre vos agriculteurs français et consommez local. Vous partagez manifestement ce point de vue.
Bah complètement. Moi, j'habite le Nord Finistère. On est une région où il y a énormément d'élevage bovin et puis aussi cochons et un petit peu de moutons et puis des poules évidemment énormément. On a énormément de poules en cage ici. Moi, je voulais réagir parce que je suis un petit peu l'actualité d'un syndicat de jeunes agriculteurs qui s'appelle les jeunes agriculteurs. Et bon, moi, je suis pas trop habituellement les combats syndicaux, hein, mais là, je voulais juste mettre en avant un travail que je trouve intéressant, qui est de entre guillemets balancer sur Facebook. Les lots de viande étrangère vendus sous des marques connues telles que Fleury Michon, Herta, Bigard, enfin toutes les marques qu'on connaît. Voilà, moi j'ai rien contre la viande espagnole ou irlandaise, mais sachant que ici en Bretagne, en gros, on a une vache à notre porte, un cochon à notre porte. Pourquoi est-ce qu'on fait venir de la viande d'aussi loin? En plus, c'est marqué sur l'étiquette. Donc, moi, je pense que le consommateur a une part de responsabilité aussi là-dedans. Quand c'est marqué au rayon à la coupe, hein, je parle, hein, pas en plat préparé, hein. En rayon à la coupe, quand c'est marqué bœuf d'origine irlandaise, pourquoi est-ce que le consommateur l'achète? C'est Coluche qui disait il suffirait que les gens arrêtent d'en acheter pour que ça ne se vende plus. Enfin, il parlait d'un autre sujet, mais ça s'applique complètement à ça.
Bah oui, alors que vous avez autour de vous des bovins locaux, voilà pourquoi acheter irlandais?
Avec le TAFTA, on va faire obtenir du bœuf du Canada, mais c'est une catastrophe. Et j'aurais une question subsidiaire pour Monsieur Perico-Legas. Le minerai de viande, dont il disait que ça n'a aucune valeur financière, est-ce qu'on pourrait pas justement augmenter sa valeur financière en le passant en pet food, en nourriture pour chiens et chats dans les croquettes?
C'est déjà le cas, non?
On pourrait d'abord interdire la production de minerai tel quel, puisque la provenance, là, elle est totalement floue. On pourrait le taxer. Et puis surtout, si le consommateur est informé que le produit alimentaire transformé est élaboré à partir de minerai, si c'est clairement indiqué sur la boîte, je peux vous dire que l'effondrement de la consommation sera immédiat. Mais là aussi, c'est une volonté politique. Il n'y a que des solutions, en fait. Il manque juste un peu de courage politique pour les mettre en place.
Et on a Laurence Rossi, merci Anthony, qui nous écrit « Un peu facile de mettre sur le dos de la grande distribution le fait qu'on nous vende des déchets bons pour la poubelle. C'est surtout que tout est bon pour faire du fric. »
Ouais. Moi, je voulais quand même rappeler une chose, parce que là, la personne qui vient d'intervenir disait à côté de chez nous, Anthony, voilà, qu'il y a de la production porcine, etc. Mais allez voir dans quelles conditions ces porcs sont élevés en Bretagne. Enfin, c'est épouvantable. Ils sont en bâtiment sur des caillebotis, ne voient jamais le jour. Donc non, c'est pas parce que c'est produit en France que c'est formidable, hein, très loin de là. Il faut aussi que le consommateur soit plus exigeant.
Mais acheter irlandais, qui nous dit que les conditions en Irlande sont meilleures que les nôtres?
Rien ne dit que c'est meilleur ailleurs. Après, c'est aussi des histoires d'échanges commerciaux, des accords qui sont passés et qui rendent obligatoires. Justement, quand on parlait du cheval, par exemple, vous savez qu'au niveau de la consommation en France, c'est sur de la viande rouge. Donc, les poulains sont envoyés notamment en Espagne pour être engraissés et reviennent se faire abattre en France. Donc, il y a aussi des échanges comme ça commerciaux qui sont instaurés et qui font qu'il y a des échanges entre pays. Mais pour autant, moi j'insiste, c'est pas parce que c'est produit en France que c'est une preuve de qualité et en tout cas respect de l'animal. C'est pas le cas. C'est pas le cas.
Ils s'enflamment, nos amis sur Twitter. Hein, Monsieur Pierrot, où est la contre-argumentation? Arrêtez la propagande. L'élevage français n'a strictement rien à voir avec l'image que vous en donnez. Je crois qu'on n'a pas parlé justement d'élevage, Perico-Legas.
En France, et ça vient d'être dit, il y a de tout. Voilà. Il y a aussi de la production industrielle. Il y a de la cage, il y a de la barbarie, on le sait. Sauf qu'il y a aussi en France l'élite de l'élevage mondial. On a une agriculture absolument florissante et on a aujourd'hui des milliers d'éleveurs qui souvent sont dans la difficulté, sauf ceux qui sont dans la qualité. Eux s'en sortent, les autres quelquefois vont jusqu'au suicide. La situation est absolument dramatique. Plus on industrialise et plus, j'allais dire, on rentre dans un système de surproduction, plus l'éleveur est malheureux. Mais nous avons en France aujourd'hui, je dis toujours au-delà de la souffrance animale, hein, des qualités de viande exemplaires avec des animaux, ce qu'on appelle élevés et nourris à l'herbe, dans des conditions qui ne sont pas de la surproduction, dans des élevages moyens. Et ensuite, il y a encore des abattoirs qui, heureusement, font leur travail correctement. Si ce système existe, eh bien qu'on s'en empare et que ce soit la référence pour tout le monde, puisqu'on sait qu'il y a des solutions. Ensuite, il y aura toujours le débat, faut-il ou pas commencer à vendre la viande.
Mais
nous avons en France la preuve que l'on peut élever des animaux dans le respect de l'environnement, de son alimentation, de la souffrance animale, abattus correctement, et qui sont une garantie. C'est un petit peu plus cher. À ce moment-là, vous savez ce qu'on fait? On en mange un peu moins, voilà. Et c'est là on va se rejoindre.
Consommons moins.
Ou pas du tout.
De viande. Alors pas du tout, je suis d'accord, on en a un débat. Mais réduisons la consommation de viande pour nous adresser qu'à cette qualité de viande-là.
Je vous donne la parole juste après la pause. D'accord. Vous allez bien, Christophe-Marie, ainsi qu'à Pascal, qui est vétérinaire de campagne, qui veut réagir aussi dans ce débat. Avez-vous confiance dans ce que vous consommez, dans la viande que vous consommez? Non à 83%. Eh bien, la transparence doit venir aussi de ce scandale et de ce procès. À tout de suite avec Julie.
À qui peut-on faire encore confiance en matière d'alimentation en général et de viande en particulier? On est avec Christophe-Marie, porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot, et Perico-Legas, qui est chroniqueur gastronomique et rédacteur en chef à Marianne.
Malgré le scandale et 7 ans après Spanghero, le chiffre d'affaires de l'industrie de la viande en France, qui va de l'abattage à la préparation industrielle des produits à base de viande dont on parle, représente un quart des industries agroalimentaires du pays. Question de gros sous, on l'a bien compris aussi, mais on entend le besoin de transparence des consommateurs aujourd'hui, de traçabilité. Ça progresse, mais on est loin.
Ça progresse parce que le consommateur s'inquiète et donc il est un petit peu plus vigilant. Maintenant, le problème aussi, on parlait tout à l'heure des lobbies, il faut voir aussi le poids de la FNSEA ou même des jeunes agriculteurs qui sont un peu dans la même tranche. Ces gens-là poussent toujours plus de production. On l'a vu avec la ferme des 1000 vaches notamment, mais c'est pas le seul projet. Et ça, c'est grave parce qu'en fait, on pousse des agriculteurs vers des filières qui sont à terme condamnées, en tout cas qui sont très est menacée. Et ça amène justement cette crise aussi des éleveurs et des agriculteurs.
Les jeunes agriculteurs sont dans quand même un principe un peu plus rationnel de retour au local.
Alors,
non,
ça, c'est la Confédération paysanne.
Depuis 40 ans, nous sommes dans une logique d'industrialisation de l'agriculture. Oui. Sous prétexte de conquérir les parts de marché et de faire des produits plus bas, toujours pour répondre aux exigences de l'industrie et de la grande distribution. Oui. La machine est en train de s'inverser puisque les producteurs eux-mêmes comprennent que c'est une voie de garage.
Et ces agriculteurs ont été forcés pour la plupart.
La FNSEA, elle a mené l'agriculture française dans le mur. Alors aujourd'hui, ils en sont conscients très, très modestement. Les JA, je considère qu'ils sont un petit peu plus évolués encore selon les départements, selon les fédérations. Nous attendions beaucoup des états généraux de l'alimentation qui ont été mis en place en 2017 à l'initiative de Nicolas Hulot. Le ministère de l'Agriculture, le président de la République s'était engagé. La montagne n'a pas accouché d'une souris, elle a accouché d'un hanneton. Peu importe, on prend date. La République a considéré que la question alimentaire était une question politique. On y reviendra. Mais ces états généraux avaient quand même pour but de garantir le coût de production, les conditions, de filiarisation entre alimentation. Ça aboutit par des textes très flous, très vagues, qui vont continuer tout le système, permettre au système de continuer comme ça. Mais aujourd'hui en France, il y a une partie de l'agriculture qui est en train de prendre conscience. Effectivement, la Confédération paysanne, la coordination rurale ont compris que ce système d'industrialisation, je disais de financiarisation de l'alimentation, ne peut pas continuer comme ça et il faut interpeller le consommateur. Évidemment, il y a des consommateurs qui disent c'est facile de dire. Je dis bien qu'il faut bien écouter la fin de ma phrase. On réduit la quantité pour pouvoir améliorer la qualité.
Oui, parce qu'il y a une famille qui nous dit, quand vous êtes au RSA, quand vous ne pouvez pas payer la cantine de vos enfants, comment...
Je fais une équation très simple que j'appelle le 18-6-3. Oui. Au lieu de faire 6 morceaux de viande à 3 euros pour 18 euros de budget de viande, je fais 3 morceaux à 6 euros. Donc je réduis plus que de moitié ma consommation de viande, mais le peu que j'achète, il est de bonne qualité, il m'a coûté moins cher, mais comme j'en ai consommé moins, à la fin de l'année ou à la fin du mois, je n'ai pas dépensé un système de plus. J'ai mangé de la bonne viande qui soutient les éleveurs, qui respecte l'environnement, éventuellement qui réduit la souffrance animale, et je rentre dans une alimentation éthique, avec des valeurs et des garanties, et non pas le moins cher systématique en grande surface, où j'ingurgis de la malbouffe qui me ruine, qui me rend malade, payé par la sécurité sociale, qui enrichit le lobby pharmaceutique. Lui, il est content, par contre, la malbouffe. Et qu'est-ce qu'il dit, le lobby pharmaceutique aux... Ne touchez à rien, je n'ai jamais vendu autant de médicaments. Eh bien non, nous allons casser ce système satanique en réduisant notre consommation de tous les produits, et notamment de viande.
Merci. Alors, ça, c'est très vrai. Court, Christophe-Marie, avant Pascal.
Effectivement, les produits carnés entraînent ces problèmes de santé. Et d'ailleurs, je voulais simplement rappeler le slogan, Programme National Nutrition Santé, manger 5 fruits et légumes par jour, ça ne veut pas dire, ils ne disent pas manger 5 tranches de jambon. Et c'est pas un hasard, c'est pas un hasard. Donc ceux qui ne s'intéressent pas, encore une fois, à la souffrance des animaux, doivent au moins arrêter ou limiter très sérieusement leur consommation de produits animaux pour leur propre santé.
Merci Christophe-Marie. Péricolégas, Pascal nous attend dans un instant au 39-21. Si les agriculteurs sont à l'écoute, n'hésitez pas aussi à réagir dans ce débat pour plus de transparence. Vous le souhaitez aussi, évidemment. À tout de suite sur Europe 1 après ce procès qui s'est ouvert hier, procès Spanghero, 7 ans après les faits.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Le tour de la question sur ce que le scandale Spanghero a changé pour les consommateurs, les dernières minutes de l'émission. Et si on parlait du lundi vert, Wendy ?
Ah, on en parlera, oui, si vous voulez. Le lundi vert, pas de poisson, pas de viande.
Ils préconisent, voilà, ni poisson ni viande le lundi.
Oui, je ne sais pas, votre conviction, votre position périco sur le sujet.
Je suis pour la limitation de la consommation. Alors ça, c'est l'expression bobo, je la déteste, mais c'est boboissime. Ça veut dire quoi que le lundi ? Non, c'est toute l'année qu'il faut faire attention.
Non, mais ce qui peut être intéressant, c'est que ça...
Ça nuit un peu à la cause pour vous, ça ?
Non, ça ne nuit pas à la cause. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'au moins, ça oblige les gens, enfin, ça oblige ceux qui ont envie de le suivre, mais à réfléchir à une consommation différente. Et ça, c'est pas inintéressant de se dire, tiens, parce que souvent, quand on est invité, moi je mange pas de produits animaux depuis très longtemps, on me dit « Ah, qu'est-ce que je vais te faire ?» Bah, en fait, c'est très simple, il suffit de se poser la question. Et l'idée du lundi vert, effectivement, moi je suis assez partagé sur cette initiative, mais en même temps, ça amène les gens à se dire « Tiens, comment on peut consommer différemment ?»
C'est une BA, on va dire que c'est une BA. Voilà.
Pascal est avec nous de la Bazoge. Bonjour Pascal.
C'est une petite bourgade à côté du Mont,
très
en pleine Combrousse.
Voilà, dans la Sarthe. Alors, vétérinaire, vous êtes vous à la campagne ? Racontez-nous.
Ouais. On a encore la chance d'avoir quelques vaches.
C'est formidable. Ouais.
Et donc, j'aime bien Perico Légas, il me plaît bien.
On va vous présenter, monsieur.
Et donc, je suis assez d'accord avec lui sur le problème. À mon avis, le premier problème, c'est le prix. Le prix en grande surface. On entend de la pub, là, juste avant que j'intervienne, il y avait encore de la pub pour Carrefour. Merde, j'ai dit le nom.
Oui.
Et pour la viande pas chère, machin, etc. Donc si on commençait par ça, je pense qu'effectivement, interdire la publicité financière à la radio, sur tout ce qui est produit agricole et éventuellement aussi produit de l'agroalimentaire. Ça serait une première chose déjà. Donc on n'aurait pas une couche à l'échalote pour le prix.
Sachant que vous citiez Carrefour comme Super U, ce sont des marques qui quand même révolutionnent leur manière de faire, Perico et Légas,
ils ont été contraints par la pression du consommateur et de l'opinion de faire, ils n'ont pas fait de bon cœur, mais certains font effectivement des signaux,
oui.
J'espère que ce ne sont pas une fois de plus que des bonnes actions et que ça se traduira par une politique plus globale et plus constante.
Alors pour vous Pascal, d'autres progrès à faire très clairement dans la filière?
Il y a aussi les progrès, j'ai l'impression d'être un professionnel de la filière. Et cette année, vous voyez, on a mis en place ce qu'on appelle les visites sanitaires obligatoires dans tous nos élevages.
Oui.
Et le thème, c'est le bien-être animal.
Quand vous dites vous, d'accord. C'est le syndicat des vétérinaires qui a fait la démarche?
C'est à la fois le syndicat des vétérinaires, c'est les éleveurs, c'est une réunion tripartite en fait avec l'État.
Oui.
Et donc on essaie de mettre en place ce thème-là pour mettre en évidence effectivement ce que nos éleveurs peuvent faire pour que leurs bêtes soient mieux.
Ah voilà, ben ça c'est bien, ça veut dire que c'est un vrai dialogue sur le terrain, un échange aussi en local, Pascal, hein, à votre initiative.
Exactement, ouais. Exactement. Que ce soit en industriel ou classique. D'accord. Alors effectivement, votre deuxième interlocuteur, je l'aime beaucoup moins. J'ai l'impression que c'est un bobo parisien, là, il m'énerve un peu.
Non, Christophe Marie, du tout. Alors après, il est porte-parole de la Fondation Bardot. Vous connaissez les combats de Brigitte Bardot.
Oui, mais je travaille aussi très bien avec la Fondation Bardot.
C'est filière, oui.
Et donc, effectivement, on essaie vraiment de faire attention sur tout ce qui est bâtiment, amélioration du confort, le paillage. On a même des vaches laitières maintenant qui dorment sur des coussins. Pour améliorer le confort, quoi. C'est-à-dire, il y a vraiment d'énormes choses qui sont faites. Donc,
oui.
On peut pas dire n'importe quoi.
Non plus. Mais on n'a pas tiré à boulet rouge sur toutes les conditions d'élevage. Vous avez bien compris, Pascal. Mais en même temps, voilà, Christophe Marie, vous êtes prise à partie. Vous pouvez.
Écoutez, plutôt que de les faire coucher sur un coussin, moi, j'aimerais mieux qu'elles partent pas à l'abattoir. Mais bon, c'est un autre discours. Non, en l'occurrence, bobo parisien, pourquoi pas. Ça m'est égal. Je suis normand. On s'occupe des animaux de ferme. On en a 5000 sauvés des abattoirs. Donc, on sait un petit peu de quoi il s'agit. Mais peu importe. Non, mais moi, ça me dérange pas. On peut me traiter de bobo parisien. Le principal. C'est en fait qu'on réfléchisse en fait à sa consommation et qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que quand on mange de la viande, c'est pas innocent. C'est un animal qui a été élevé souvent dans des conditions épouvantables, transporté, on n'en a pas parlé. Les transports, c'est vraiment aussi un gros problème de protection animale et abattu dans les conditions maintenant qu'on connaît. Donc, véritablement, le consommateur est acteur, donc il peut choisir différentes... il y a des filières, mais au-delà des filières, il peut choisir de ne pas manger de produits animaux. Et ça a une conséquence énorme, évidemment, sur la condition
Merci
animale.
Merci Christophe Marie.
Une seule consigne, manger c'est voter.
Voilà, manger c'est voter. Alors c'est bien que vous disiez ça,
est un acte politique.
Parce que dans la perspective des européennes...
C'est le nom de mon émission sur Public Sénat, pardon de faire de la promo.
C'est très bien.
Voilà, je reçois des
quel
sénateurs.
Jour, quelle
et
heure
ça passe en permanence.
D'accord.
Voilà, manger c'est voter.
C'est très bien,
et c'est bien la preuve que l'acte alimentaire est un acte politique
Merci.
Responsable pour les citoyens.
Merci Perico Légas et je renvoie à votre livre Du panier à l'assiette chez Solar avec Serge Papin. À bientôt, monsieur Perico Légas. À bientôt, Christophe Marie de la Fondation Bardot. Merci. On parle BD et Astérix dans un instant avec Julie. Merci pour vos appels.